C'est un de mes bouquins préférés, c'est un de ceux que je connais le mieux en fait, et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié l'affiche. Non, ça va. Donc, comment les pays riches sont devenus riches et pourquoi les pays pauvres restent pauvres? C'est aux éditions du Rocher. C'est paru en anglais en 2007 et ça a été traduit en français en 2012. L'auteur est Eric Reinhardt, donc qui est né en 1950, donc c'est un bouquin, bah, vous l'avez entendu, 2012-2007, c'est très actuel. Alors, le gars, quand même, je vais faire un petit peu son CV, parce que souvent on dit, oui, mais c'est des théoriciens, ils y connaissent rien à l'économie. Le gars est certes diplômé en économie de l'université de Saint-Gallen en Suisse, pardon. Il est norvégien, je ne sais pas si je l'ai dit, le gars est norvégien. Et en 72, il fonde une entreprise, ou il reprend une entreprise de peinture pour automobile à Bergame. Et il va installer notamment des unités de production en Norvège et en Finlande. Et son entreprise deviendra un meneur sur le marché mondial des peintures pour automobiles. Et il va revendre le tout en 91 pour se consacrer à la recherche en économie du développement. Il enseigne en économie à Harvard, où il a obtenu un MBA. Il enseigne en économie et il a obtenu un MBA à Harvard. Et il a développé, comme j'ai dit, son centre d'études en économie. Alors, aussi un truc important que j'ai noté sur la fiche Wikipédia que j'ai retrouvée ailleurs. Mais écoutez bien, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Il a accumulé, en fait, au cours du temps, une importante collection de livres sur le développement économique.
Ça, c'est impressionnant.
Hétérodoxe, auteur depuis le XVIe siècle. Et en fait, ces livres étaient détenus par l'université de Harvard, qui avait décidé de mettre ces livres au rebut, car ils n'étaient jamais empruntés par les étudiants en économie. Des bouquins d'histoire de l'économie, en fait. Et sa bibliothèque personnelle d'ouvrages rares atteint aujourd'hui 45 000 exemplaires, ce qui est quand même pas mal pour un individu. Et voilà, sa bibliothèque est dans sa maison.
Mais ce qui est fou, c'est quand même l'université d'Harvard qui se délaisse de bouquins, voilà. Parce qu'effectivement, ils sont plus lus, mais en même temps, si vous les faites disparaître, ils seront plus lus.
Ils seront plus lus, ouais. Effectivement. Alors, son œuvre, pourquoi s'est-il intéressé au développement économique? Parce que justement, il s'est rendu compte, avec son entreprise, il disait que c'est l'État et l'action des États qui vont fixer on va dire la conjoncture économique, et qui fait que mon chiffre d'affaires sera plus ou moins élevé, contrairement aux gens qui vont dire, à des libéraux qui vont dire que c'est l'entrepreneur qui va créer l'activité, qui va créer les emplois et qui va créer la richesse. Oui, dans une certaine mesure, mais l'État va définir le cadre global favorable ou défavorable à l'entrepreneuriat, on va dire ça comme ça. Et donc son ouvrage, c'est sur l'histoire économique, l'histoire du développement économique, et donc pour lui de l'industrialisation. Et il en fait une critique du libre-échange. Parce qu'il dit qu'en théorie dite classique, néoclassique, celle qui domine en fait à l'heure actuelle, qui sont corollaires aux théories traditionnelles sur le libre-échange, il n'y a pas d'activité. Alors ça va être compliqué, attention, il faut bien écouter. On n'opère pas de distinction dans ces théories entre les activités à rendement croissant, les activités où il y a des effets de levier énormes, les activités en fait de haute technologie, et les activités à rendement décroissant qui sont en fait l'exploitation des matières premières ou l'agriculture.
Et là justement, c'est le lien avec l'innovation technologique. Et le cadre fixé par l'État.
Et donc, dans cette théorie, toutes les activités sont à rendement décroissant et on ne tient pas compte de l'existence d'activités qui vont permettre justement de créer véritablement de la richesse, de la valeur ajoutée, du profit, de l'augmentation de salaire, etc. Et pour lui, un pays ne peut faire croître durablement son niveau de vie par habitant sans développer ses activités à rendement croissant, des activités de haute technologie.
Mais hautement technologique. Et il prend l'exemple, à ce moment-là, des balles de golf.
De golf, comparées aux balles de baseball.
Voilà, et des balles de baseball. Et il dit, les balles de golf, en fait, ça a été très fort automatisé. Mais dans un cadre, disons, de protection de l'État, cadre protectionniste, donc pas économie ouverte, en fait, les salaires ont pu monter.
Mercantiliste,
voilà. Mais les salaires ont pu augmenter parce que, effectivement, comme vous avez facilement, enfin vous, ça va de manière croissante, la production va de manière très fortement croissante, avec des coûts qui ne sont pas,
qui commencent même à diminuer,
voilà, en fait, qui commencent à diminuer à un certain point, mais que vous êtes dans un cadre de l'État qui n'ouvre pas les marchés, dans le fait où tous les salariés ne sont pas contre tous les salariés du reste du monde, mais vous avez juste les salariés de cet État-là, et donc ils ont pu négocier d'avoir des meilleures conditions de travail. Par contre,
pour les balles de baseball.
Les balles de baseball, effectivement,
c'est de la production artisanale.
Alors, ça peut être très chouette.
C'est
mais
coup à la main, tout
c'est
ça.
Coup, mais voilà, mais c'est toujours dans des États tiers-mondistes. Voilà. Et ces personnes n'ont pas la possibilité d'augmenter leur salaire parce que le coût, l'échelle, machin, etc., n'est pas assez puissant pour eux. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'innovation technologique là-dessus.
À propos de cette idée de pourquoi on est développé, pourquoi on est sous-développé, il y a, peut-être pas exactement sur le thème même, mais très lié, une intervention récente d'Evo Morales, le président de Bolivie. Et il dit en relation non pas au développement, mais à la dette extérieure. La dette extérieure, que la Bolivie est importante. Il dit, ben oui, mais vous nous demandez de payer cette dette. Mais je voudrais quand même que vous nous payiez les milliers de tonnes d'or et d'argent que vous avez piqué ou vous avez emprunté il y a quelques siècles. Et je vous dis, mais peut-être à la limite que vous ne payez pas les principales, mais payez-nous les intérêts.
Oui, c'est vrai. Mais là, il y a un bon
Renner
bouquin.
Renner passe en brèche parce qu'il dit on ne développe pas une économie sur l'exploitation de matières
non,
premières.
Non, mais c'est pas juste Renner.
Non, c'est le circulant, là.
D'autres le disent aussi.
Non, l'économiste...
Bayrock, je l'ai dans ma liste.
Mais là, a provoqué une explosion du circulant, d'argent pour payer, pour acheter en Europe.
Et
c'est ça qui a permis le développement européen aussi.
Et qui exploitait l'or? L'or allait où? Il allait en Espagne ou au Portugal. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les riches familles espagnoles profitaient de l'or et achetaient de plus en plus de terrains. Et donc l'économie restait une économie tournée vers l'élevage et l'agriculture et n'a pas pu développer son industrie.
Oui, parce qu'il a importé tout de la Flandre et d'autres pays, mais il achetait avec de l'or qui venait de l'Amérique latine.
Mais il ne s'est pas développé, c'est pas eux.
Non, mais la Flandre bien.
Qui est illustratif à ce niveau-là. C'est que dit, voilà, Venise a été considérée comme une des premières puissances en Europe parce que ça dominait la Méditerranée. On pense qu'il dominait parce qu'il commerçait beaucoup.
Oui.
C'est vrai, il commerçait beaucoup. Mais en fait, quand on analyse, au XIe, XIIe siècle, le doge de Venise, donc le boss, quoi, agrandit l'arsenal et commence à en faire un centre de production de navires. Mmh. À tel point qu'au sommet de sa puissance, Venise va développer, l'arsenal va produire jusqu'à un bateau par jour. Ce qui est absolument énorme pour l'époque.
C'est dingue.
C'est l'ancêtre, en fait, des chaînes de production, parce que c'était pas un bateau autour duquel tout le monde tournait, on construisait au fur et à mesure. Non, il y a un atelier qui produisait les voiles, un autre qui produisait l'école, un troisième qui produisait la structure du bateau, un autre les sous-structures en bois du bateau, etc.
Et
donc, à ce moment-là, on avait produit le bateau, il sortait, et qu'est-ce qu'on faisait? On vendait l'espace du bateau, donc les cales, le volume des cales, on le vendait aux enchères, à tous les marchands de la Méditerranée. Et c'est en fait, Venise a fait sa richesse, bien évidemment, sur le commerce, mais il produisait les moyens du commerce.
Oui, c'est ça.
Et donc, il dit, il n'y a rien à faire pour Rainer.
Il y avait une production et une main-d'œuvre qualitative qui s'est créée.
Et tout le monde arrive et tu peux. Alors là tu as besoin de migrants parce que tu as besoin de matière grise, tu as besoin de gens qui réfléchissent, tu as besoin de gens qui connaissent les mathématiques, tu as besoin d'ouvriers qualifiés qui ont peut-être une expérience acquise aux Pays-Bas. Enfin, non, à ce moment-là, non, c'est plutôt Venise qui était le premier centre de production européen à grande échelle. Et c'est toute la thèse de Renner de dire, si vous voulez de la prospérité dans un pays, il n'y a rien à faire, il faut fabriquer, il faut produire. Évidemment, ça va à l'encontre du productivisme. Ça, j'en ai bien conscience, mais lui, c'est une analyse de l'histoire, de l'économie, de l'Europe et surtout de l'Europe. Du monde, c'est un peu plus difficile parce que l'accès aux sources est évidemment plus limité s'il s'agit de la Chine. Mais il dit qu'en Chine, il y a eu la même chose quand on sait que la Chine a été une des puissances majeures dans le monde pendant plusieurs siècles.
Exactement.
Donc c'est le bouquin, c'est « Comment les pays riches sont devenus riches et pourquoi les pays pauvres restent pauvres ». C'est d'Éric Reinert aux éditions du Rocher, donc paru en 2012 en version française. Il y a encore d'autres exemples, notamment l'Angleterre qui développe son économie avec la laine. Et en fait, le textile. Hein,
le textile, oui.
Et en fait, je pense que la politique mise en place par les Tudors à l'époque, je pense que c'était les Tudors, mais je ne suis plus sûr.
Que ce soit les Tudors.
C'est qu'ils donnaient des subsides à l'exportation si tu transformais la laine.
Ouais.
Et donc, comme tu transformes la laine, tu es obligé d'amener des capitaux, d'investir, de créer des centres de production locaux, régionaux et puis nationaux.
Et il a limité l'importation.
Il a limité, évidemment, l'importation.
Il a limité l'importation.
Dans le mercantilisme.